Samedi 1er août 1914. Sans en parler à sa mère Micheline, Alphonse se glissa de bonne heure hors des draps. Il se vêtit en vitesse et fila vers le clapier. La rue Piédeville était vide. « Je suis le premier dehors », se dit-il en descendant vers le jardinet, porté par un zeste de fierté. Ce sentiment, Alphonse le réprouvait chez les autres, sauf lorsqu'il s'agissait de la fierté d'être un basalpin. Il grelotta, caressé par l'air pourtant tiède, qui annonçait une journée torride. La première du joli mois d'août, comme le disait avec un soupçon de spleen, Micheline, accrochée au souvenir des moissons et des fêtes de son enfance. Depuis tout petit, il l'avait toujours vu déprimé lorsqu'août commençait. La faute à ses deuils qui s'étaient succédés. Le mari, la sœur, le père. Tous, au 8e mois de l'année, ils étaient partis. Alphonse longea les maisons alignées comme dans une crèche de Noël. Fragiles façades aux volets clos, derrière lesquelles des enfants dormaient encore. Alors qu'il approchait du petit portail de bois du jardin, il les imagina allongés à côté de leurs parents, qui s'aimaient, se mêlaient, se regardaient, se parlaient tendrement. Il les entendait presque. Alors, se rouvrait au creux de son ventre, l'instant d'un profond soupir, la fraîche cicatrice de son amour évanoui. 3 années sous les drapeaux avaient fait leur sale boulot. Le caporal Alphonse Richard se serait bien passé de ces longs mois de régiment qu'il avait peu à peu coupé de Louise, sa promise. À son retour à Digne, elle ne l'avait plus frôlé que pour lui faire ses adieux, un beau matin, vêtue d'une parure de nonne. Elle se retirait au Carmel. Il ne se reverrait plus. Cette béance soudaine et déchirante, Alphonse l'avait vécue en serrant les dents si fort que presque aucun son ne sortait désormais de ses mâchoires, fermées à jamais, il l'avait décidé, à toute possibilité de mots d'amour et à plus forte raison de baiser. Le clapier tapissait un mur de pierre ronde au fond d'une petite allée jonchée de gravier. Alphonse l'avait construit lui-même, sur plusieurs étages. Un mélange disparate de planchettes et de fils de fer. À première vue, c'était presque miraculeux qu'il puisse tenir debout, tant la construction ressemblait à un baraquement de fortune. Les lapins n'y semblaient pas malheureux, tapis derrière le grillage serré qui les protégeait des rats. Nourris d'épluchures de légumes, tassés sous les quelques feuillages qu'Alphonse leur avait disposés, ils ne bondissaient plus comme en plein champ, mais profitaient du calme de l'endroit pour se reproduire à l'ombre et à tout va. À chaque fois, le jeune homme les enviait. Pendant quelques minutes, il observait leur petit manège en silence, fasciné par la fulgurance de l'accouplement, avant de passer à l'action car le civet commandait. Son assaut était subi et ciblé. Alphonse n'attaquait pas au hasard, attrapait les oreilles du plus dodu, puis refermait la porte grillagée, s'émouvoir à peine de la chaleur du pelage au creux de la main, regrettait presque déjà ce regard rond et désespéré. Ne pas s'attendrir devant ce museau tremblotant, ne pas s'éterniser et frapper d'un coup sec à l'arrière de la tête. Puis recommencer, si l'envie lui prenait, d'apporter un lapin à sa voisine Augustine, trop âgée pour se déplacer jusqu'au jardin. Elle avait été jadis sa nourrice et vouait à Alphonse une vénération presque sans limite en raison de la douceur d'âme, disait-elle, de ce jeune homme qu'affectueusement elle surnommait Fonfon. Elle collectionnait les poèmes qu'il lui avait envoyés chaque semaine pendant son service militaire. L'expédition punitive terminée, Alphonse remonta vers la maison en serrant le lapin contre le coton clair de sa chemise. Il ne voulait pas le tenir plus longtemps comme un pendu. La gigue triste de l'animal défunt n'aurait pas collé avec la lumière rosée qui commençait à caresser les toises et les murs. Du museau de sa victime perlaient des gouttelettes de sang vermillon qui chutaient sur ses souliers tels de minuscules œillets de cérémonie. Il ne les remarqua pas. Micheline remercia son fils avec un « Oh, que c'est gentil !» à peine sonore. Puis, elle lui servit en vitesse une assiette de soupe. Alphonse frissonna en la regardant saigner la bête de son couteau pointu avant de la dépecer avec soin, et il partit sans tarder pour l'atelier. Le samedi, dans son échoppe de la traverse de la lune, c'était jour de nettoyage. Assiettes, verres, casseroles et bassines en fer blanc, toute la collection y passait, sans parler du sol, lavé à grande eau et lessivé au savon de Marseille. Son métier, il avait appris avec l'oncle Auguste, sur le tas. Le certificat d'études en poche, Alphonse avait eu le choix entre tanneur et ferblantier. Il avait choisi le métal plutôt que la peau, écœuré par les odeurs pestilentielles qui envahissaient jusqu'à la laine et les habits de Fernand, son camarade d'école, devenu artisan tanneur. L'après-midi passa comme s'écoulait la plupart des après-midi depuis son retour du régiment. Une sieste, 10 minutes, pas plus, sinon le mal de crâne s'installait, 3 heures d'atelier et une promenade jusqu'au galet de la Bléone, où Alphonse se risquait à tremper les pieds parmi les mamans à ombrelles et les bambins en quête de fraîcheur et de ricochet. Assis sur une grosse roche plate, il se laissa absorber par les chaos de l'onde glacée. Sa rêverie l'emporta vers en bas, vers la mer lointaine, où il imaginait que la rivière se jetait. Cette Méditerranée dont il avait appris à écrire le nom à l'école, mais qu'il n'avait jamais vue. Avec Louise, ils en parlaient souvent et projetaient de la découvrir ensemble lors de leur voyage de noces. Ce rêve évanoui accompagna Alphonse jusque dans son sommeil. Il traversa cette première nuit d'août dans une mélancolie agitée de spasmes qui ressemblait aux ultimes soubresauts d'une bête en sursis blessée par un chasseur.